il faut qu'on arrive à vivre ensemble. C'est une nécessité. C'est une nécessité.
We want people to know that it's everyday people who change the world.
Nous sommes Radia, Maud, Floriane et Marie. On est musulmanes, juives, agnostiques et catholiques. On a parcouru le monde à quatre pendant 10 mois et à travers 13 pays.
I'm Brazilian.
In Los Angeles.
Mexico.
South Africa.
Habitant de l'île Maurice.
In Uganda.
Indonesia.
C'est ça la Calédonie.
On a tendu nos micros à des activistes, des citoyens et citoyennes, des responsables religieux et politiques qui s'indignent, espèrent et agissent ensemble.
Eu sou Patrícia Tomaschi.
Me chamo Josafat.
Graciela. Elias.
My name is Parker.
Jason Chu.
Jaffa.
Moi c'est Anouchka.
Bert.
Naftar.
Esme Monarouk.
Tamal.
Avec Je crois que la Terre est ronde, embarquez avec nous chaque semaine dans un nouveau pays. À travers nos quatre regards, on vous partagera des voix inspirantes et porteuses d'espoir pour construire la paix ensemble.
Salut! Gros bisous! Merde, non, c'était pas mal.
Salut!
Et comme on dit ici,
hello!
Et comme on dit ici,
molweni!
Et comme on dit ici,
khwedar!
Et comme on dit ici,
shabona!
Quand on vous dit Afrique du Sud, vous pensez à Nelson Mandela et à l'apartheid. Et si on vous dit les Khoi et les San, les Zoulous, les Xhosa, ça vous dit quelque chose? Moi, c'est Maud et aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de l'Afrique du Sud, de Cape Town à Johannesburg. Pour commencer, on se devait de vous réexpliquer un peu le contexte sur place. C'est vrai que c'est difficile de comprendre les problèmes actuels de l'Afrique du Sud si on ne comprend pas vraiment son histoire. Alors on vous fait un petit résumé en 2 minutes. D'abord, les premiers habitants et habitantes d'Afrique du Sud, c'est les Khoi et les San. Ce sont deux peuples autochtones avec des spiritualités qui leur sont propres. Mais ces peuples, ils vont être persécutés et spoliés tout au long des siècles avec les différentes colonisations. Après, entre le 8e et le 16e siècle, ce sont les populations bantoues qui arrivent dans le pays. Il y a plusieurs ethnies, les Zoulous et les Xhosa. Et les Xhosa notamment, ils ont une manière de parler assez spécifique. Et Radia, t'as appris l'éthique, est-ce que tu pourrais nous faire un petit cours?
J'ai vraiment essayé d'apprendre, hein. Je suis pas sûre de moi. Mais effectivement, il y a 3 lettres qu'on connaît pas forcément en Europe. Il y a le K qui est en fait le Q, il y a le K qui est le C, et il y a le K qui est le X. Voilà.
Merci Radia pour l'explication. Et justement, après ces colonisations de personnes bantoues, il y a bien après les Hollandais qui arrivent dans le pays. Aujourd'hui, les descendants des Hollandais, des colons, sont appelés les Boers. C'est une population blanche en Afrique du Sud. Les Boers contrôlent alors les terres et multiplient les esclaves. Ensuite, c'est le tour des Britanniques qui arrivent autour du 19e siècle. À l'époque, ils ont un très grand empire. Et après l'abolition de l'esclavage, ils vont recruter de nombreux travailleurs engagés. Ces populations viennent principalement de Malaisie et d'Inde. Et parmi eux, on trouve les premiers musulmans d'Afrique du Sud. Les descendants de ces musulmans, de ces personnes arrivées de Malaisie, on les appelle les colored, les métissés. Puis au fur et à mesure, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a des lois qui passent qui font des citoyens noirs et colored des citoyens de seconde classe. Les populations noires peuvent pratiquement pas posséder de terres et en 1929, elles doivent avoir un passe pour circuler. Au fur et à mesure, à partir de 47 et 48, l'apartheid se met en place. Les noirs, les colored et les blancs peuvent pas se marier entre eux. Il y a des quartiers réservés aux personnes noires, aux personnes blanches. Les populations blanches vont s'emparer des richesses et les personnes noires vivent alors dans des townships, des bidonvilles. Et ça continue même après la période d'indépendance en 1961. On veut alors une ville où les gens vivent d'un côté et de l'autre, où ils ne se rencontrent pas. Il y a même un musée qui explique comment on a exproprié les terres de personnes colored, et ça a d'ailleurs beaucoup marqué Marie.
On est allé au musée du District 6, c'est un quartier de Cape Town qui est hyper cosmopolite et multiculturel au départ. Et en fait, en 1966, ce district est défini comme une zone de résidence pour blancs seulement. Donc commencent les expulsions et les destructions autour de 1968. Au total, en 1982, c'est plus de 60 000 personnes qui ont été expulsées et relogées à plus de 25 km dans les townships. Les anciennes maisons de la zone du District 6 ont même été rasées. Ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est uniquement les lieux de culte.
C'est vrai, quand t'arrives autour du District 6, c'est hyper frappant. Et cette histoire du District 6, finalement, elle reflète bien l'histoire de l'apartheid. Mais face à l'apartheid, il y a des résistances qui se mettent en place. Bon, il y a Mandela, mais il y a aussi Steve Biko. C'est le mouvement des consciences noires, avec l'idée que les blancs sont au-dessus des noirs, ça vient s'immiscer jusque dans les consciences des personnes noires, qui pensent elles-mêmes qu'elles sont inférieures. Alors il y a plein de mouvements de révolte qui se mettent en place. Le mouvement du défi en 52. En 76, il y a une énorme révolte avec le township de Soweto qui s'embrase. Il y a des répressions énormes, de plus en plus violentes, dans les années 80 et 90. C'est seulement en 89 que Frédéric de Klerk prend le pouvoir. Il négocie avec Mandela et obtient sa libération. Ensemble, ils organisent la fin de l'apartheid et les premières élections démocratiques. Mandela est alors élu président. Il veut mettre en place une Rainbow Nation, une nation arc-en-ciel, où les gens vivent ensemble. Il y a une commission Vérité et Réconciliation avec Desmond Tutu qui permet d'accueillir les différents témoignages de l'apartheid.
Mais est-ce qu'on est arrivé à cette harmonie de la Rainbow Nation ?
Bah, pas vraiment, et même pas du tout. Les descendants des Boers, c'est toujours les personnes les plus riches d'Afrique du Sud. Les populations noires, elles vivent encore dans les townships. Et les inégalités, elles sont énormes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une mixité sociale entre les différentes personnes et les différentes religions ? Bah, peut-être à Johannesburg, mais en tout cas, pas au Cap. Et les gens sont surpris quand t'es pas dans un quartier qui correspond à ta couleur. L'eau aussi devient un enjeu majeur pour l'Afrique du Sud. C'est une ressource qui est insuffisante, et avec la corruption, ça aide pas. Il y a de nombreuses infrastructures qui existent encore pas. Bref, il y a encore plein de défis. Alors, on est parti voir des organisations qui se battent pour la justice climatique, sociale et raciale, en utilisant le levier de l'interreligieux. La première association qu'on est allé voir, c'est une association qui se bat pour la justice climatique.
Marie. Cette association qui se bat pour la justice climatique, c'est SAFSEI, l'Institut de l'environnement des communautés religieuses d'Afrique du Sud. On voulait absolument interviewer sa directrice Francesca, dont on a entendu parler quand on était à New York avec Fletcher, le directeur du mouvement interreligieux international pour le climat Greenface. C'était vraiment génial de capter combien les structures peuvent être connectées au niveau international et de sentir la complicité qui existe entre les activistes au niveau mondial. Francesca, c'est une grande femme brune au carré court et au sourire bienveillant.
Oh, good morning everyone, my name is Francesca De Gasperis.
Le jour où elle nous a reçus, elle était hyper occupée entre une réunion et une présentation pour un appel à projet, mais elle était tellement enthousiasmée par notre projet qu'elle a pris du temps pour nous présenter à son équipe. Et Francesca, c'est une vraie passionnée. L'interreligieux croisé avec le climat, c'est ce qu'elle appelle sa vocation.
I would say that I'm multi-faith. I've got an earth-based faith. It's eclectic, yeah. But I was in communities of different faiths when I was growing up. So I was very close to a Jewish community when I was very young, and then at high school I was at an Anglican high school. So I've been exposed to a number of different faiths along the way, and also in this work. So that's really how we work. We consider ourselves a multi-faith organization, and we chose the word multi-faith because interfaith was more about learning about each other's faiths, whereas SAFSEI was more about working together as faiths to address environmental issues. So we were seeing ourselves as being alongside each other in solidarity and addressing the environmental issue.
Avec SAFSEI, l'Institut de l'environnement des communautés religieuses d'Afrique du Sud, Francesca et son équipe sont chargées de soutenir les leaders religieux et leurs communautés pour sensibiliser les gens à l'impact des problèmes environnementaux sur leur quotidien. Alors concrètement, il s'agit de créer des espaces où les leaders religieux partagent leurs expériences, de les former au plaidoyer, de leur transmettre des outils pédagogiques et de monter ensemble des campagnes sur les questions énergétiques, alimentaires, etc. Donc pour faire le lien entre justice climatique et justice sociale, SAFSEI fait aussi de la recherche et de la veille sur ces sujets afin de porter des propositions auprès du gouvernement pour un vrai changement politique. Leur but, c'est de faire le lien entre le terrain et la politique. Les leaders religieux sont les personnes qui connaissent le mieux les besoins de leur communauté et leur communauté leur font confiance. Ce sont donc les meilleurs vecteurs pour à la fois défendre les droits des membres de leur communauté en portant leur voix et à la fois changer les mentalités et les habitudes au sein des communautés. À travers elles et eux, on peut vraiment toucher tout le monde.
Radia.
Moi j'ai kiffé discuter avec les salariés de l'organisation après. Notre échange était hyper intéressant, ils avaient vraiment plein de questions pour Interface Tour. Et surtout, c'était intéressant de pouvoir creuser chacune de leurs missions, chacune de leurs fonctions et voir très très concrètement comment est-ce que l'organisation impliquait les responsables de culte, les leaders religieux, au sein de leurs actions de plaidoyer, de sensibilisation, etc.
Marie, ce qui m'a marqué quand on a rencontré l'organisation de Safe Say, c'est qu'il y a un lien à la spiritualité qui est hyper fort au sein de l'orga. Francesca, elle nous explique qu'il y a des leçons à tirer dans chaque texte sacré et que ça peut être un moteur d'action. Et j'ai été interpellée par le fait qu'il et elle perpétuent une tradition africaine qui est le fait d'ouvrir leur réunion par un temps de prière, soit une méditation, un poème ou autre, dans le but de se rassembler, de se sentir connectés les uns aux autres. Et en fait, je me suis dit, oh là là, mais en France, ce serait tellement inimaginable. Et un autre truc qui m'a marqué particulièrement lors de cette rencontre, c'est que j'ai pris conscience que, en fait, quand on parlait de leaders religieux, c'était pas forcément des prêtres, des imams, des rabbins, ou je sais pas, enfin voilà, des personnes chargées du culte, mais ça peut être n'importe quelle personne qui a une responsabilité au sein de sa communauté. Et en gros, ça peut être toi, moi, n'importe qui.
Et parce que, comme dit l'adage, il ne faut pas opposer fin du mois et fin du monde, on est parti à la recherche d'initiatives qui œuvrent contre l'injustice sociale et la pauvreté.
Floriane, on a rencontré James.
Ok, so my name is James Elman.
James, il a 54 ans. On l'a rencontré chez lui, dans une petite pièce au fond de son commerce de proximité, dans un township à Cape Town. James, il a la foi en Dieu et en l'humain chevillé au corps. Il est né dans une famille interreligieuse, avec une mère musulmane et un père chrétien. Et pour lui, la diversité a toujours été une source de richesse. Après avoir été moine franciscain pendant 3 ans, il quitte le monastère et fonde une famille quelques années plus tard. Aujourd'hui, il dit que les gens le jugent très catholique et qu'ils viennent me voir quand ils ont des questions sur la religion. James a fondé l'organisation Faith Love Hope Communities dans son quartier gangréné par la pauvreté, la violence et les gangs. Il crée du lien entre les différentes communautés religieuses autour de rencontres sportives, visites de lieux de culte, manifestations, repas partagés et des médiations.
Maud.
James, il vit à Alice River. C'est un quartier très dangereux à Cape Town. Et il le dit lui-même, il y a plus de morts là-bas que dans certaines zones de guerre. Il raconte comment il réconcilie les gangs, comment il aide les plus pauvres et comment il a créé un système d'épargne collective pour permettre aux gens de sortir de la pauvreté.
Marie. Alors James, il a commencé en tant que responsable de la pastorale des jeunes dans son diocèse et ça l'a amené à créer Faith Hope Love. Son engagement interreligieux est tellement ancré dans sa foi, ça m'a beaucoup marqué. Aussi au niveau de sa manière d'être et de faire, tout se reflète là-dedans et c'est pas naïf en fait. Il a des anecdotes très simples, concrètes et vraies qui ont fait pas mal écho à mon expérience au sein de Coexister quand il parlait de prière avec son ami musulman, chacun dans sa tradition, ou de repas qu'il était hyper fier d'avoir préparé en pensant être hyper interconvictionnel. Il avait fait un plat à base de poulet cachère, donc trop cool, sauf qu'il s'est rendu compte que son pote hindou était végétarien, donc voilà, il a dû apprendre comme ça. Et j'étais assez touchée par... il avait à la fois une fierté, parce que voilà, il a eu des prix pour... la reconnaissance de son travail et en même temps beaucoup d'humilité et aussi beaucoup d'ambition, je dirais, pour pouvoir développer son action. Ces témoignages, personnellement, ça m'a beaucoup touchée à ce moment-là parce que je crois que j'avais besoin de petits rappels sur le fait de, en fait, comment tu veux travailler avec des acteurs et des actrices de paix ou chercher des initiatives de paix ou construire la paix si t'es pas en paix avec toi-même. J'ai été aussi très apaisée par son regard sur l'autre ou sa manière de transmettre l'idée de donner et recevoir. Bref, pour lui, l'interface, c'est vraiment aider l'autre à grandir et grandir ensemble. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ses rappels à ce moment-là.
Radia.
James nous a donné une bonne leçon de curiosité infinie, avec sa volonté d'apprendre de tout, partout. Enfin, il est super autodidacte dans tout ce qu'il fait. Et donc, je retiendrai vraiment cette leçon. Pour lui, l'interreligieux est un lieu d'apprentissage permanent.
You need to be you, and I need to be me. But we can work our journey together. We don't even have to agree. And our differences can help us to grow. It doesn't have to divide us, you know. It can make us stronger together.
Floriane.
Ce qui m'a d'abord touchée chez James, c'est sa piété, sa sincérité et sa sagesse. Quand il nous parlait de son engagement, je l'ai trouvé ancré dans la réalité, sans tabou, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ce que je retiens de son travail, c'est la nécessité de responsabiliser les gens en les faisant non seulement participer aux événements, mais également en les impliquant dans l'organisation. Il est ancré dans son quartier et il part toujours des besoins de ses voisins.
Thank you, James.
Thank you very much. And travel safe.
Yes. Yes.
Enjoy the rest of your journey.
Yeah. Thank you.
Bye bye.
enfin, vous l'avez compris, l'injustice sociale en Afrique du Sud, elle est très liée au racisme qui vient de l'apartheid. Alors, on est parti voir une association extraordinaire qui s'appelle Justice Desk.
Radia.
Jessica et Mishka ont la trentaine et sont toutes les deux engagées au sein de Justice Desk. Jessica est fondatrice et directrice générale, Mishka est directrice administrative et financière. Justice Desk, c'est une organisation qui est dirigée par des jeunes, qui forment, accompagnent et donnent des outils à des personnes pour qu'elles deviennent des leaders et des activistes. L'interreligieux, dans toute cette organisation, est utilisé pour mieux comprendre les lieux d'intervention et se vit dans la communauté militante engagée et surtout diverse en termes de convictions.
Marie, ce qui m'a beaucoup parlé avec Justice Desk, c'est leur côté hyper militant. Vraiment en mode action de terrain, à fond, plaidoyer, enfin vraiment c'était incroyable. Et également la manière dont ils ont réussi à produire beaucoup d'outils pédagogiques en open source sur des questions de violence basée sur le genre, sur les droits humains ou sur les droits des enfants. Ils ont écrit des guides, il y a des posters, des vidéos et tout est disponible sur leur site internet. Vraiment je trouvais ça incroyable d'avoir fait ça en si peu de temps. Et j'ai été très touchée aussi par la complicité qui existe entre Jess et Mish.
Oh, we call her Mother Justice. Yes. She's the fierce defender of children.
I'm gonna be right there.
Radia.
Un des trucs qui me passionne le plus dans Interface Tour, c'est vraiment rencontrer des jeunes qui ont la même finalité, les mêmes objectifs que nous, alors qu'on vit à des dizaines de milliers de kilomètres, qu'on ne vit pas du tout dans les mêmes contextes, qu'on n'est pas né dans les mêmes familles, qu'on ne vient pas des mêmes catégories socio-économiques. Et c'est vraiment ce que je retiens aussi de l'entretien qu'on a eu avec Jessica et Mishka, c'est qu'on se ressemble en fait, on a la même vision pour le monde, une volonté intarissable de construire la paix. Et je trouvais ça trop cool, j'avais juste envie de m'engager avec elle, j'aurais même demandé si elle prenait des stagiaires pendant l'été. Et la deuxième chose, c'est que la force de Justice Desk, c'est de venir d'un pays où il y a beaucoup de leaders qui sont mis en avant, comme Nelson Mandela, Desmond Tutu, etc. Et qu'elles en sont fières, elles sont super fières de ces leaders, mais elles disent que ça ne suffit pas et que tout le monde peut être un activiste, tout le monde peut être un militant, une militante, et il suffit d'être formé pour ça, et c'est ce que Justice Desk veut faire.
In the world, we see that it's the role of some people to change the world. So the Mother Teresa's and the Barack Obama's and the Mahatma Gandhi's, Nelson Mandela's. But even though they were incredible people who did incredible things, we want people to know that it's the everyday people who change the world.
Aujourd'hui, face aux défis climatiques, sociaux et raciaux, les jeunes veulent plus que jamais changer les choses. Ils veulent permettre la rencontre entre des jeunes qui ne se seraient jamais rencontrés sans les associations. Alors, on est parti à la rencontre de Marlene, qui se mobilise pour la jeunesse, et ce depuis toujours.
I am so happy to have had this experience of building friendships with people with whom I would never have met, and without knowing them, would have had made prejudgments about them. They are now my friends.
Marie. Marlene, c'est une dame hyper coquette qui avait déjà été rencontrée par la deuxième équipe Interface Tour et elle est vraiment incontournable dans l'interface au Cap. Tout le monde connaît son travail et ses programmes éducatifs. Elle a d'abord été militante contre l'apartheid et puis elle a construit un programme éducatif sur le judaïsme. À travers l'Holocauste, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait ouvrir la discussion sur les sujets du racisme, des discriminations et des droits humains. Et elle s'est aussi impliquée au Cape Town Holocaust Center. Elle nous a raconté que faire des choix, ça avait des conséquences et du coup, il fallait en assumer les responsabilités. Elle a fait beaucoup de sensibilisation auprès des enfants, auprès de jeunes dans des gangs, auprès de prisonniers, de personnes dans l'armée, la police, etc. Et en fait, son travail a même été intégré au programme scolaire. Et puis, elle a initié des interface programs avec des enfants de différentes écoles et quartiers. Comme on l'a dit, il n'y a pas de mixité au sein d'un même quartier, comme il n'y a pas de mélange entre les gens. Donc vraiment, ce programme, ces sessions de discussion mensuelles et ces camps de 5 jours permettaient à des enfants de différentes religions et de différentes couleurs de peau de pouvoir se rencontrer, de pouvoir discuter à partir de leur identité, de qui on est, et pour pouvoir ensuite aller vers l'autre, qui est l'autre. Quels sont les problèmes auxquels on est confrontés ensemble? Quel est le lien justement à nos religions, à nos différentes convictions? Et comment on peut chercher des solutions ensemble?
We want these people to create a society in which they can live in peace and harmony. And one cannot do that until you can unify people. Doesn't mean that You've got to believe in my religion. But what you do need to do is respect the dignity of difference and understand the similarities and understand what it means to create a society which is different from the one in which we are living.
Maud.
L'histoire dont je me souviens le plus, c'est la rencontre entre Marlene et Jérôme. Elle a fait visiter le mémorial de la Shoah à un détenu et Jérôme, il a été bouleversé par cette visite. Dans la violence nazie, il a reconnu la violence de son quotidien. Ils ont commencé un échange épistolaire. Après la prison, il a ouvert un commerce et est resté très proche de Marlene. Et il dit que cette visite du mémorial de la Shoah a jamais changé sa vie.
If you do not like the law, you do have other options. Number one, you can leave the land. Number two, try and change the law. Number three is your last resort, revolution.
Marie, le temps avec Marlene, c'était un moment suspendu de transmission et d'un héritage. Enfin, moi, j'ai vraiment été marquée par le fait, enfin voilà, elle a été attaquée pour ce qu'elle faisait, elle a rien lâché. Elle nous a montré les traces de son travail avec un énorme book photo d'un parcours hyper riche. Elle nous a montré ses carnets, enfin ses livres, il y a des DVD, voilà, de ses productions. C'est une dame qui a eu un impact énorme en fait auprès de beaucoup de personnes. Au Cap notamment, mais pas que. Et même si aujourd'hui elle a passé la main, elle est encore hyper active auprès des enfants tous les jeudis. Je trouvais que c'était vraiment une super source d'inspiration.
Radia.
Oh là là, 60 ans d'engagement pour la justice, c'est long. On sait que l'engagement militant, bah, parfois c'est fatigant, parfois on est triste, parfois c'est difficile. Et elle a toujours une joie d'engagement. Elle nous a raconté toute son histoire pendant près de 2 heures avec un sourire qui ne s'arrêtait pas. Je suis très admirative en tout cas de cette joie militante que j'ai envie de garder avec moi pour le reste de mes années d'engagement.
We will learn to create a better society. It will take a long time, but we should never stop trying, because every one of us can make a difference. And I really do believe that.
Marlene, c'est vraiment une fondatrice. Elle a une vision, un objectif. Puis, on est allé à la rencontre des facilitatrices et des facilitateurs de ces ateliers pour mieux comprendre comment ils se passaient.
Just watching the way that they created such a like safe space for conversation and for young people from all around the world, it was a really powerful 2-week experience. Thinking as a 16-year-old, like this is what I want to do.
Radia.
Sarah a 29 ans. Elle est née dans l'interreligieux puisque ses parents, notamment son père, frère John Oliver, prêtre anglican, y étaient très engagés. Sarah a non seulement adopté cet héritage, mais elle est allée beaucoup plus loin. Son engagement a commencé à l'âge de 7 ans d'ailleurs, lorsqu'elle a allumé des bougies lors du Parlement des religions mondiales qui a eu lieu en 1999 au Cap. Elle a participé à l'âge de 15 ans à un camp de jeunes interreligieux, justement pensé par Marlene, et ce moment pour elle a été un déclic. Ce n'est pas pour son père, c'est pas juste parce qu'on lui demande d'allumer des bougies, mais ça devient véritablement un engagement à l'interreligieux. À ce moment-là, elle devient une activiste pour plus de justice, et au sein de son engagement, l'interreligieux tient une place essentielle. Elle le dit elle-même, il faut s'engager pour la justice et pour répondre aux défis du monde, et il est en plus nécessaire de le faire en créant des liens interreligieux. Sarah, c'est la plus jeune directrice associée de URI, United Religions Initiative, un réseau international dont on vous a déjà parlé. Et en plus de cet engagement hors pair, Sarah nous a proposé d'être hébergée chez sa maman pendant toute la durée de notre séjour au Cap. Sarah est vraiment devenue une de nos sœurs d'engagement, une rencontre qui restera gravée dans nos mémoires.
Marie. Oui, carrément, Sarah, c'est une personne qui est généreuse, très spirituelle, de plein de manières différentes, que ce soit par la méditation, l'art, sa connexion, voilà, à ce qui l'entoure. Et justement, c'est une connectrice, enfin, que ce soit au niveau local, où elle nous a énormément aidé à entrer en relation avec tout le réseau et interface du Cap, et au niveau international, où elle nous a connecté aussi avec tout le réseau URI et d'autres cercles de coopération. C'est marrant parce que j'étais marquée sur le fait qu'elle disait que non seulement... Donc elle a eu un impact sur nous, mais quelque part, notre projet Interface Tour a eu un impact aussi sur elle parce que ça lui a permis de prendre du recul sur la situation de l'interreligieux, de l'interconvictionnel au Cap. Ça lui a donné encore plus d'idées. Enfin voilà, c'était super de pouvoir avoir ces discussions. C'est une personne qui est passionnée par l'éducation populaire. J'ai adoré l'écouter parler justement des jeux qu'elle anime pendant les Interface Camp. Et je trouvais ça beau d'observer aussi les liens d'amitié qu'elle a tissés avec d'autres facilitateurs et facilitatrices que sont Rola, Babs, Lorraine, Izzy. Je trouve ça incroyable de voir tous les projets et l'ambition qu'elle a pour l'interface. J'ai beaucoup de gratitude envers elle et j'ai hâte qu'on puisse se retrouver dans d'autres situations.
Maud.
Sarah, en tant que facilitatrice pour les camps de jeunes, elle a le sens du détail. Les camps, ils sont découpés en plusieurs jours et plusieurs étapes. D'abord, le premier jour, les jeunes, ils parlent de leur identité. Ensuite, de l'altérité, de l'autre. Et enfin, des challenges de la société et comment changer les choses. Elle nous a parlé d'un jeu qui m'a vraiment marqué, c'est le jeu des épingles. Chacun prend des épingles et au fur et à mesure, il y a des phrases qui sont dites par le facilitateur ou la facilitatrice. Par exemple, je mange 3 fois par jour, j'aide l'eau courante. Et si on a ces choses, si on peut faire ces choses, alors on accroche les épingles les unes aux autres. Et en fait, à la fin du jeu, soit on a énormément d'épingles accrochées, soit on n'a pas d'épingles. C'est pour permettre de se rendre compte des inégalités qui existent dans la société. C'est quand ils rassemblent des jeunes de tout Cape Town. Ils viennent parfois des townships, parfois des milieux très privilégiés. Et ainsi, les jeunes, ils prennent conscience de leurs privilèges. Sarah, elle a hyper conscience des limites de ce jeu parce qu'en fait, les enfants issus des quartiers défavorisés, ils en ont conscience de ces inégalités. Et c'est plus pour les personnes qui ont des privilèges pour qu'elles se rendent compte en fait de ce que ça veut dire vraiment les inégalités, surtout en Afrique du Sud.
Radia.
C'est clair qu'elle a plein de projets et plein d'ambitions pour l'interreligieux, mais elle a aussi vraiment une véritable vision. Elle est continuellement dans la réflexion et dans l'action, et on n'en a pas rencontré beaucoup des personnes qui arrivent à faire les deux aussi bien. Ce qui m'a aussi impressionnée, c'est sa capacité à se remettre en question. Alors oui, elle est peut-être engagée depuis plus de 15 ans dans l'interreligieux, mais encore aujourd'hui, elle se dit « Est-ce que je fais bien les choses ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer ?» Elle le fait toujours, toujours avec intelligence. Et ce que je retiendrai, c'est bien sûr tous les moments informels. On lui a parlé de l'apéro à la française, on a eu plein de discussions, on a dansé ensemble. En vrai, on est vraiment devenus amis.
Sarah, elle a un peu embarqué tous ses potes dans cette aventure, dont Izzy.
So, my name is Izzy.
Marie. Izzy, c'est un éducateur et un learning designer qui s'est engagé d'abord à Cape Town dans son université, puis au niveau international. En fait, il s'identifie en tant que musulman et il voulait comprendre la situation en Israël et Palestine. C'est ce qui l'a poussé à commencer à apprendre l'hébreu. Et en fait, dans sa classe, il y avait des juifs réformés, des chrétiens, des baha'is, des personnes palestiniennes et ses professeurs étaient israéliens. Ils ont commencé à se donner rendez-vous avant et après les cours pour discuter et de manière hyper profonde. Et en fait, c'est comme ça qu'inconsciemment, il a commencé à s'engager dans l'interface. Ça lui a amené pas mal de questions pour dire comment on fait pour avoir ce genre de discussion et qu'elle puisse se développer sans s'agresser. Que, en gros, tout repose sur la manière de poser des questions.
To be able to enter a space and to have the courage to ask the questions that need to be asked.
Et que ces discussions, pour lui, c'est une nécessité. Qu'est-ce que les gens traversent? Pourquoi? Tout ça, toutes ces discussions, ça l'a poussé aussi à s'engager au sein du conseil étudiant dont il est devenu membre, parce que justement, il voulait introduire l'interface dans son université. Il se rendait compte que les organisations religieuses étudiantes, elles ne se parlaient pas. Du coup, il a été aussi repéré par le conseil interreligieux de Cape Town qui lui a demandé de prendre des responsabilités en jeune. Il a aussi animé des camps.
Maud.
Izzy vient d'une communauté colored. Il est hyper conscient des inégalités. Il s'est vraiment mobilisé à l'université de Cape Town pour les étudiants les plus précaires. J'ai trouvé qu'il était hyper sensible à ces questions et qu'il faisait vraiment attention aux autres. Je trouve qu'il incarne hyper bien cette philosophie sud-africaine qu'on appelle l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est en français un peu « je suis car tu es ». Tu peux pas être si l'autre n'est pas et tu peux pas être si tu fraternises pas avec l'autre. Et je trouve que c'est une philosophie qui est absolument centrale et qui peut jouer un rôle essentiel dans la reconstruction de l'Afrique du Sud.
I don't know what it's like to be a South African black person. I don't know what it's like to be a South African white person. I don't have those lived experiences. But I think our intentionality comes in when we acknowledge our position in that engagement and to know when I could do something and should do something or when I should just be quiet and take a step back.
Marie. Oui, je suis d'accord. Effectivement, chez Izzy, ce qui était très fort, c'était justement la question de l'intention et du contexte. C'est-à-dire, dans une discussion, dans la relation à l'autre, à qui je m'adresse et d'où je parle, en fait, dans quel contexte je suis, pour que mon propos puisse être compris et ne pas blesser l'autre. Et c'est vrai que c'était une belle rencontre. Avec Izzy, on a eu l'occasion d'avoir de chouettes discussions, et notamment au niveau spirituel. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à échanger.
Après notre rencontre avec la fondatrice, les facilitateurs et les facilitatrices, on a voulu rencontrer les bénéficiaires des camps des jeunes et savoir quel impact ça a eu sur LEE.
Floriane.
On a rencontré Imad. Imad, il a le regard pétillant et le rire communicatif. Il a donc été bénéficiaire de ces fameux youth camps, ces camps de jeunes d'été. Et la première fois qu'on l'a rencontré, c'était chez Sarah. À seulement 19 ans, il est déjà un multi-engagé dans son université. Alors, quand il nous a dit qu'il voulait devenir président, on a tout de suite voulu faire un entretien avec lui.
And my last question will be, Imad, why do you want to be president? You have 1 minute.
So, with regards to why I want to be president?
Marie.
Ouais, clairement, Imad, c'est l'esprit d'initiative, l'ambition et une justesse dans ses propos.
Radia.
À 19 ans, il nous propose une des analyses les plus fines qu'on ait entendues sur le contexte en Afrique du Sud. Et sa capacité à se remettre en question et à parler, mais pendant 2 heures sans faire aucune généralité, m'a vraiment estomaquée.
Floriane.
La rencontre avec Imad, ça a été pour moi une vraie bouffée d'oxygène. Je retiens son énergie, sa conscience des enjeux en Afrique du Sud aujourd'hui et sa volonté de faire bouger les choses, notamment sur les questions de racisme et de genre. Il se voit d'ailleurs comme la première génération qui parle aux aînés pour faire bouger les mentalités.
Marilyn, Sarah, Izzy, Imad, que de rencontres inspirantes. Et c'est pas tout. En Afrique du Sud, on a eu plein de beaux moments partagés avec des Sud-Africains. Il y a eu l'anniversaire d'Izzy, de Radia, la visite du township de Langa avec Kola et plein d'autres pépites. Une de nos belles surprises a été le dîner de Shabbat avec une communauté juive libérale de Cape Town.
Floriane.
Cet office de Shabbat était une de nos premières sorties à Cape Town, dans cette synagogue libérale pas très loin de la mer. On a d'abord été chaleureusement accueillis par la communauté et par d'autres personnes non juives engagées dans l'interreligieux présentes ce soir-là. Après l'office, Greg et Andy, le couple de rabbins, nous ont invités à dîner chez eux.
Marie.
Pendant l'office de Shabbat, il y avait la présence de Berry et Pipa qui représentaient le conseil interreligieux de Cape Town. Et c'était un moment fort de soutien après la prise d'otage qui a eu lieu dans une synagogue au Texas le samedi précédent. Donc je trouvais que leur présence, notre petit groupe interreligieux et interconvictionnel, donc A4 avec Sarah et Izzy, ça avait beaucoup de sens dans cet office qui était très joyeux, plein de chants et ouais, c'était vraiment une très belle entrée en Shabbat.
I'm Jewish, yes. I'm agnostic, I'm Muslim and I'm Christian Catholic.
Et j'ai été aussi touchée par le dîner chez Andy et Greg où quand on est arrivé, ils nous ont demandé de tirer au sort un petit coupon avec ce qu'ils appellent des anges gardiens. Et en gros, t'as un mot qui est noté sur ce petit carton et c'est un peu voilà ton ange gardien. On se les est découvert à la fin du repas. Et c'est une manière d'accueillir que je trouvais marquante. Par exemple, parmi les mots, donc il y avait les notions de joie, de fraternité, de sécurité, plein de choses hyper différentes. C'est un peu comme des petits souhaits. quelque chose avec lequel ils ont envie que tu vives le moment et que tu repartes avec.
Radia.
Je retiens le regard critique, mais très attaché à l'Afrique du Sud, du rabbin Greg, avec qui on a une discussion politique, sociale et religieuse sur le contexte de Cape Town et de l'Afrique du Sud. Il nous a aussi demandé, puisqu'on était une équipe interreligieuse, de partager une parole, une prière spirituelle pour l'entrée en Shabbat. Et il nous a demandé de le faire sur le thème de la lumière. Et j'ai pu partager un dhikr, justement, sur la lumière liée à Dieu. Et j'ai trouvé que ce partage spirituel était très fort.
Ya Nou, Ya Quddou, Ya Rasulullah Al-Ali, Ya Nou, Ya Quddou, Ya Rasulullah Al-Ali.
Maud.
Moi, j'ai adoré le moment de la cuisine. Alors, ils nous ont tous donné une tâche différente. Sarah, elle devait jouer du piano. Nous, on devait couper les concombres. Floriane, les tomates. Tout le monde avait une tâche définie. Et ce qui était vraiment hyper intéressant pendant le dîner, c'est qu'il nous a raconté sa participation à l'événement national interreligieux autour de la mort de Desmond Tutu. Desmond Tutu, c'est celui donc, qui a mis en place la commission Vérité et Réconciliation après l'apartheid. Une figure centrale de la réconciliation de l'Afrique du Sud post-apartheid. Et en fait, cet événement national interreligieux, pour lui, c'était un événement hyper important. Après, il avait quelques critiques à émettre, notamment le fait que ce soit le premier événement après la mort de Desmond Tutu et que pour la famille de Desmond Tutu, ça n'a pas été facile. Et aussi, ce qui l'a dérangé, c'était que sur scène, il y avait beaucoup de blancs et dans la salle, beaucoup de noirs. Et en fait, ça reproduisait parfois les mécanismes de la domination de l'apartheid. Et c'est aussi pour ça que ça a été intéressant, sa remarque, parce que je me dis qu'aujourd'hui, dans nos actions, il faut vraiment penser au contexte pour ne pas reproduire les mêmes mécanismes de la domination.
Floriane. Ce que je retiens de cette soirée, c'est la spontanéité de l'invitation, la simplicité et tous ces moments donc, de cuisine, de partage de prières, de discussion. Ça a fait que pour moi, ça a vraiment été un de mes moments préférés de notre séjour en Afrique du Sud.
Et on ne peut pas finir sur l'Afrique du Sud sans parler de notre randonnée interreligieuse.
Radia.
La randonnée interreligieuse, l'Interfaith Hike, est une marche organisée par l'organisation interreligieuse de Cape Town. Plusieurs membres se réunissent et marchent ensemble sur un des nombreux chemins de randonnée de la ville. Cette marche est coupée par des interventions de chacune des personnes présentes qui proposent une prière, une pensée ou un partage. On était vraiment honorés de pouvoir intervenir, on a expliqué ce que c'était que l'Interface Tour et on a chacune eu une parole individuelle.
Marie.
Moi, je trouvais ça trop cool de retrouver toutes les personnes qu'on a pu interviewer pendant notre séjour à Cape Town, de les retrouver une dernière fois avant de partir, c'était chouette, et de pouvoir avoir ce temps de partage à quatre où j'ai l'impression qu'on se redécouvre autrement lors de ces occasions de partage spirituel, de chanter un chant taisé avec Radia, de pouvoir prendre un peu de recul sur la ville et s'ancrer dans un petit rapport à la terre.
Radia.
Alors quand Sarah nous a proposé de participer à une randonnée, clairement j'ai failli dire non. J'essayais de trouver dans ma tête toutes les excuses pour pas y aller. Je suis malade, je suis fatiguée, j'ai plein de travail. Parce que vraiment les randonnées c'est pas mon truc. Et pourtant j'ai adoré ce moment. Alors déjà, c'était une marche parce que j'ai recherché la différence entre une randonnée et une marche. Une randonnée, c'est quand c'est plus de 4 heures. Donc là, c'était une marche. Et en plus, on s'est arrêté vraiment 10 fois pendant cette marche. Donc c'était parfait pour moi. J'ai beaucoup apprécié marcher, discuter, échanger dans un environnement agréable. C'était trop cool.
Le Shabbat et la randonnée ont été des moments très conviviaux, comme les différents apéros qu'on a pu avoir avec Sarah et sa mère en s'exclamant « apéro !» Et bien sûr l'anniversaire de Radia et Izzy qui resteront des moments mémorables.
Marie. C'est marrant parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui me faisait un peu rêver, mais qui n'était pas dans notre liste au départ de pays à étudier. Donc j'ai aimé être surprise, recevoir ce cadeau inattendu. Ce qui m'a marquée, c'est que j'ai eu l'impression qu'on pouvait retrouver à la fois toute la beauté et toute la complexité de l'Afrique du Sud, en fait, dans son drapeau, et derrière cette devise « unité dans la diversité ». Bien sûr, les paysages de Camps Bay, la plage, le Cap de Bonne-Espérance, c'est très symbolique parce que j'étais jamais allée si bas dans le monde. Donc j'ai aimé toucher ce point. Et j'étais très marquée par le contraste entre justement ces paysages et ce que pouvait dégager l'architecture de Cape Town, la réalité. J'ai beaucoup aimé cette ville et le peu qu'on a pu découvrir de ce pays, mais en même temps, je me dis que c'est une ville dans laquelle j'aurais du mal à me projeter ou à envisager de vivre, par exemple, parce que je sais que ma couleur de peau, elle va renvoyer quelque chose de particulier. Je pars de ce pays en me disant, mais comment ça tient, quoi? Comment, avec toutes ces disparités, ça continue de marcher? Enfin, tout ne tient qu'à un fil. Vraiment, pour moi, des personnes comme Sarah, Babs, Ola, Lorraine, Imad, Salwa, Izzy, c'est vraiment une source d'espoir. Ça a été aussi un gros moment pour nous en équipe. J'ai eu l'impression d'un départ d'un autre pied après 3 mois de voyage.
Radia.
Pour moi, ce mois passé, c'était un vrai coup de cœur. J'ai le sentiment de partir en m'étant fait des amis, des personnes où j'ai envie de prendre des nouvelles à chaque fois. C'est sûr que quand je lirai des nouvelles ou des articles dans les médias sur l'Afrique du Sud, bah, je ne les lirai plus jamais de la même manière. Je penserai à toutes les personnes qu'on a rencontrées, je penserai à tous les moments qu'on y a passés, notamment parce que le contexte, il tient vraiment un fil, comme l'a dit Marie. Même si les lois discriminatoires et les lois de l'apartheid n'existent plus, les inégalités ne font que s'empirer. Et d'ailleurs, là où on l'a entendu de manière la plus forte, c'était lors d'un témoignage à Robben Island. Robben Island, c'est une île qui est au large de Cape Town et dans laquelle se trouve une prison dans laquelle a été enfermé Nelson Mandela et d'autres militants et militantes de l'apartheid. Et à la fin de la visite, on a eu l'occasion d'échanger avec un ancien prisonnier. Et cet ancien prisonnier, je lui ai posé la question à la fin de son intervention en lui demandant comment est-ce qu'il voyait le contexte sud-africain aujourd'hui, la situation politique. Et là, avec un regard d'immense tristesse, il m'a répondu que c'était pas l'Afrique du Sud pour laquelle il s'était battu. Et donc c'est pas pour finir cet épisode sur une note négative, mais c'est pour dire tout ça ne tient qu'à un fil. Et heureusement qu'il existe des personnes comme Sarah, comme Izzy, comme Imad, comme Emma, toutes ces personnes qui font en sorte de solidifier la cohésion sociale en Afrique du Sud, parce que c'est clairement un pays qui en a bien besoin.
Mode.
Ce que je retiendrai, c'est les inégalités énormes qui existent entre les quartiers de Cape Town. C'est vraiment l'impression de changer de pays quand tu changes de quartier, aussi de changer de population. Et je retiens vraiment l'intrication des problématiques sociales et raciales. En fait, quand tu es colored, quand tu es noir, quand tu es blanc, ça implique énormément de choses. Alors pour nous, en tant que Français, en tant qu'Européens, ça paraît tellement loin. Et en même temps, j'ai envie de dire que ça nous fait bien réfléchir sur le contexte français aussi. Ce que je retiens vraiment, 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 c'est les hôtes incroyables qu'on a eus. Sarah et Emma, elles ont été incroyables avec nous. Elles nous ont ouvert leurs portes. Elles nous ont hébergés pendant plus de 10 jours. Et je leur dis merci, merci, merci.
Floriane. Moi, je retiens les différents types d'interconvictionnels, d'interreligieux. Le bisounours où tout est rose et tout le monde s'aime. Et celui plus ancré dans la réalité, avec la reconnaissance des inégalités et que le dialogue passe parfois par des moments difficiles et inconfortables. J'en garde les couchers de soleil et des paysages à couper le souffle, mais aussi un sentiment constant de malaise lié à la situation post-apartheid.
Pour nous, l'Afrique du Sud, c'est aussi
une visite du quartier malais Bocap,
3 visites de musées, District 6, Memorial Iziko Slave Lodge et Musée de l'Histoire Musulmane à Cape Town.
Une visite de Robben Island.
Une visite de Langa avec Cola.
Un office de Shabbat et un Shabbat dinner chez Andy et Greg.
Trois messes catholiques, un culte évangélique et une prière de Thésée en ligne avec Emma et Sarah.
Une visite de la mosquée du District 6 et une discussion avec l'imam et Salwa.
Une visite de l'Institut Turquoise et la mosquée Nizamiye à Johannesburg avec Aïché.
10 jours de confinement dans le quartier de Woodstock et 24 tests Covid.
Deux hébergements chez les merveilleux Emma à Ziekefle, à Cape Town, et Paul à Johannesburg. 14h30 d'avion, 21h de bus et 2h de bateau.
3 jours de points d'étape de 3 mois de voyage en équipe.
Un braai, barbecue traditionnel sud-africain, un vegan market, des fruits à volonté, du biltong et un pinotage. Notre plus beau coucher de soleil à Camps Bay et mes 30 ans!
Ça vous a donné envie d'en savoir plus sur notre étape sud-africaine? Rendez-vous sur notre blog www.interfacetour.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode à Maurice.